Les cours du Collège de France, Nalini Anantharaman, chaire géométrie spectrale.
Bon, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de démontrer le théorème d'ergodicité quantique ou théorème de Schneer-Ellman, ou au moins de poser les bases, les objets de base qui permettent de le démontrer. Donc on va parler de procédés de quantification et de calcul pseudo-différentiel. Au départ, ça sera des choses relativement bien connues pour les spécialistes. Donc je rappelle la formule qu'on avait donnée la dernière fois. Bon, pour l'instant, on est sur l'espace euclidien. Et on avait dit, quand on a une fonction qu'on peut voir comme une observable classique, donc une fonction de la position et de l'impulsion, on peut lui associer un opérateur qui va agir sur les fonctions sur RD. Et il y a un choix à faire et j'avais choisi la quantification standard. Et on avait un petit peu parlé de la quantification de Weil, mais pour le cours, hein, le choix de la quantification n'aura pas énormément d'importance. Je vais essayer de faire attention. H-bar, c'est la constante de Planck divisée par 2π. Je vais essayer de faire attention à bien mettre les 2π correctement. Donc on avait posé cette définition. Et aujourd'hui, il faut que je donne un certain nombre de règles algébriques en fait, concernant ce procédé de quantification. Donc déjà, quand on fait le produit de deux opérateurs de ce type, donc c'est une classe qui est stable par produit, et on a une formule pour quand on fait A composé avec B, on a une formule explicite qui nous donne le nouveau symbole correspondant au produit des opérateurs que je vais noter par le... c'est une espèce de composition qu'on peut écrire explicitement. Alors c'est... je vais essayer... Alors là, on voit apparaître la transformée de Fourier de B par rapport à la première variable, par rapport à la variable de position. Bon, donc voilà une formule un peu algébrique. Alors ce qu'on voit tout de suite, c'est que même si au départ on était parti des classes de symboles de Claude Nirenberg, mais au départ, même si A et B ne dépendent pas explicitement de la variable h-bar, dès qu'on se met à faire le produit, en fait, on est tout de suite forcé de généraliser la classe qu'on avait introduite pour considérer des classes de fonctions qui vont dépendre aussi de la constante de Planck. Donc, je suis amené à modifier un tout petit peu la définition de la classe de Claude Nirenberg que j'avais donnée la dernière fois. C'est-à-dire que maintenant, je vais autoriser mes fonctions à avoir une dépendance en la constante de Planck. Et simplement, je vais garder la même définition, mais je vais demander que toutes les normes soient bornées indépendamment de H. Maintenant, si A dépend de H, je veux que ça soit uniforme pour H, le but c'est de faire tendre vers H vers 0, hein, donc on va demander à ce que tout soit uniforme en H quand H tend vers 0. Et ce qu'on peut montrer, c'est que si on part de. On fait d'un symbole A qui appartient à SM et B qui appartient à SN, alors le produit qu'on obtient, il faut faire attention, ce sont des intégrales oscillantes. Ce n'est pas des intégrales absolument convergentes, ce sont toujours des intégrales semi-convergentes, mais on peut montrer que cette nouvelle fonction C, qui dépend de H, elle appartient à S M plus N. Donc un opérateur d'ordre M composé avec un opérateur d'ordre N, ça donne un opérateur d'ordre M plus N. Et puis j'utiliserai aussi la notation, donc ça c'est des définitions, et je dirais que A il appartient à H puissance K fois Sm si quand je divise A par H puissance K, j'obtiens une famille de fonctions qui satisfait les estimées précédentes. Alors en général, on ne se contente pas juste de cette formule-là. On veut faire ce qui s'appelle des développements asymptotiques semi-classiques. Donc on veut regarder quand H tend vers 0. Et donc l'étape suivante, c'est dans cette expression-là, de remplacer A par son développement de Taylor. Par rapport à, on fait le développement de Taylor de A par rapport à la deuxième variable. Bon, je peux le faire à n'importe quel ordre. Et si je remplace A par son développement de Taylor dans le psi, j'obtiens un développement de C qui peut être fait à tout ordre. Donc il va... Donc C, ça ressemble à cette expression-là. Toujours en x et xi, plus un reste. Et ce qui est important, c'est de savoir estimer ce reste. Et ce reste, alors oui, encore peut-être une notation. Si j'ai un symbole A qui est la forme H puissance K fois un élément de la classe SM, je noterai les opérateurs qui sont obtenus comme ça. Je les noterai. Si M c'était la classe des opérateurs qui était obtenue en appliquant le procédé de quantification aux fonctions de la classe SM, puis voilà, là ils sont multipliés, ils peuvent être multipliés par une puissance de H. Et là, si on étudie le reste, en écrivant la formule de Taylor, le reste, si A est dans SM et B est dans SN, le reste, il est d'ordre en H, il est d'ordre N plus 1, et puis en psi, il va être d'ordre N plus M moins N plus 1. Alors plus tard dans le cours, ça n'interviendra pas dans le théorème de Schneerellman, mais plus tard dans le cours, on aura besoin d'utiliser des classes de symboles un peu différentes de cette définition-là, qui sont parfois appelées classes de symboles exotiques, mais... Donc on va se donner En fait, c'est le genre de symbole qu'on veut utiliser quand on veut zoomer sur une petite partie de l'espace des phases. Donc on va se donner un paramètre rho positif et imaginons qu'on veuille maintenant, au lieu d'utiliser... Mais imaginons qu'on veuille dans l'espace des phases, donc position-impulsion, imaginons qu'on veuille essayer de zoomer sur des petites régions de taille h puissance rho. On va être amené à devoir considérer des fonctions A dont les dérivées croissent polynomialement avec H. Donc on va introduire la classe de symbole SM indice rho. La définition, c'est que je veux que si je dérive... Ça correspond vraiment à cette image. Hein, c'est vraiment la classe de symbole qui apparaît naturellement si je veux essayer de faire des zooms dans des petites régions de l'espace des phases. Donc je vois qu'à chaque fois que je vais dériver, je vais perdre une puissance moins rho, h puissance moins rho. Donc c'est exotique, mais c'est assez naturel. Et je peux aussi avoir envie éventuellement de zoomer différemment en impulsion et en position. Donc je peux avoir envie de regarder ce qui se passe, mais en considérant des boîtes rectangulaires avec en position H essayer de zoomer à échelle H puissance rho et en impulsion H puissance moins rho prime. Et si je fais ça, je dois introduire une classe de fonctions qui va satisfaire que quand je dérive en impulsion, je vais perdre des puissances. Quand je dérive en position, par contre, je vais perdre des puissances H moins rho. Et puis quand je dérive en impulsion, je vais perdre des puissances H moins rho prime. Et en fait, en général, assez souvent, mes observables, elles seront un support compact. Surtout que dans la suite, plus tard, je travaillerai sur des variétés compactes. Donc, assez souvent, en fait, le M ne jouera pas énormément de rôle parce que je regarderai juste des parties bornées de l'espace des phases. Donc, dans ce cas-là, je noterai, pour dire que c'est un support compact, je noterai S comp. Oui? Ah, pardon. Oui. Je veux essayer de regarder de faire des zooms à des plus petites échelles. Donc, ça fait exploser les dérivés. Est-ce que j'ai une brosse? Je pense que là, je peux effacer ça. Alors pour l'instant, il me semble que j'ai uniquement dit que mes opérateurs, ils étaient définis sur un espace pas très intéressant, l'espace S'. Mais évidemment, on va vouloir les faire agir sur des espaces L2, hein, surtout quand on étudie l'ergodicité quantique, on veut étudier les fonctions de carré intégrable. Et donc, on utilise sans arrêt ce qui s'appelle le théorème de Calderon-Vaillancourt. Alors on est en dimension D. Et le théorème nous dit que, en fait, donc mettons que A appartient à la classe S0, nous dit qu'on a un opérateur qui agit de manière... C'est un opérateur borné sur les fonctions de carré intégral. Et on peut majorer la norme. Alors, je ne vais pas avoir besoin d'une forme complètement optimale. On peut majorer la norme. Alors, pour l'instant, je vais écrire la forme avec h bar égale 1. Et après, on verra. Si on rajoute le h bar, ça revient juste à faire un rescaling hein, par rapport à certaines variables. Donc, pour l'instant, avec h bar égale 1, on peut majorer la norme par... un certain nombre, un nombre fixé de dérivés de A. On a besoin d'un certain nombre de dérivés qui dépendent de la dimension et que je n'ai pas besoin d'expliciter. Alors maintenant... donc voilà, donc on a, à partir du moment où on est par exemple dans la classe S0, on a des opérateurs bornés. Et qu'est-ce qui se passe si je rajoute le h bar? Alors rajouter le h bar au départ dans ma définition, on avait dit ça revient juste. À faire une homothétie sur la variable de Fourier, une homothétie de h-bar. Donc si je pars de ce résultat-là, ça va juste me mettre... Ça va me mettre un dh-bar à la puissance bêta. C'est les dérivés en psi qui vont être concernés. Donc toujours pour un certain nombre de dérivés. Donc si on peut l'écrire comme ça, ça fait jouer un rôle asymétrique à la position et à l'impulsion, ce qui n'est pas toujours satisfaisant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand il s'agit d'estimer des normes d'opérateurs dans L2, en fait cet opérateur il est conjugué par une conjugaison unitaire. On peut faire des zooms différents en fait en position et en impulsion. Donc je peux, pour n'importe quel paramètre état, je peux zoomer de état en x et dézoomer de état en xi. Et ça, ça se fait via une conjugaison unitaire qui est simplement... la conjugaison, elle n'est pas mystérieuse, c'est juste une homothétie en X. Donc, si c'est pas le même opérateur, mais ils sont conjugués unitairement. Donc, ça, c'est une expression, si on veut, du principe d'incertitude, que si on veut zoomer de état en position, on doit forcément dézoomer en impulsion. Mais si on fait ça, ça nous permet d'obtenir une série de variantes de cet estimé-là, parce que par exemple, je peux prendre... Alors le choix le plus courant, c'est de prendre état qui est racine de h. C'est le choix qui est le plus symétrique en position et en impulsion. Si je fais ce choix-là, je vais obtenir l'estimée suivante. Les deux sont vraies, elles sont différentes, mais les deux sont vraies. Alors ça, c'est le choix qui fait jouer des rôles symétriques à x et à xi. Donc ça, c'est en faisant ce zoom-là. Et en faisant un zoom, je peux faire un zoom un petit peu dissymétrique aussi. Alors, ça doit être quelque chose comme h bar. Je pense que c'est quelque chose comme ça, plus 1 moins rho plus rho prime sur 2. Et c'est aussi vrai Il y a des versions où on zoome de manière différente en position et en impulsion. Alors, ça va faire... Ça, c'est utile dans le cas où on veut faire des zooms avec deux paramètres différents. Voilà, trois estimés qu'on utilise fréquemment. Et ce qu'on voit, c'est que donc si on prend en particulier, si on s'intéresse à ces classes de symboles exotiques, on obtient des opérateurs qui sont bornés indépendamment de H, à condition, il y a une limitation en fait sur la taille du zoom qu'on peut faire. Donc on a des opérateurs qui sont bornés indépendamment de H. Il y a une contrainte sur rho et rho prime, qu'il faut que rho plus rho prime soit plus petit que 1. D'accord. Donc en particulier, si on est dans la classe S0 rho, il faut que rho soit plus petit que 1/2. Donc ça veut dire que les estimés qu'on a, on peut se permettre de les utiliser pour des symboles qui font des zooms, mais on ne peut jamais zoomer à moins de racine de H. Là, on est limité. Cet estimé-là, elle nous limite à des boîtes de taille, des carrés de taille racine de H. On peut jamais. Enfin, si on essaye de zoomer à des échelles plus fines, en fait, on n'a plus aucun contrôle sur les opérateurs qu'on utilise. Et dans le cas dissymétrique, bon, c'est pareil, mais il faut que le volume symplectique de la boîte soit plus petit que H. Et donc ça va être vraiment la limitation à toutes les techniques qu'on essaye d'utiliser pour faire le lien entre la mécanique classique et la mécanique quantique. On sera toujours limité à cette échelle. Maintenant, je peux parler du théorème d'Egorov, dont Francis... Donc moi, en fait, oui, je n'ai pas dit, mais tout mon cours, ça sera des choses à une particule. Tout à l'heure, Francis parlera de problèmes plusieurs corps, et il nous parlera aussi des questions qui s'est posées sur le théorème d'Egorov dans ce contexte à plusieurs corps. Le théorème d'Egorov, c'est un théorème qui va nous dire, on va pouvoir l'interpréter en disant que la mécanique quantique converge vers la mécanique classique quand on fait tendre h bar vers 0. Et on va partir de On part d'une observable classique, mais on la transforme en un opérateur par ce procédé de quantification. Et on regarde ce qui se passe quand on le fait évoluer, quand on lui fait subir une évolution de Heisenberg. Donc on le conjugue. On le conjugue comme ça par un opérateur unitaire. Et on suppose que cet opérateur P, il est lui-même obtenu en quantifiant une observable classique. Alors le cas vraiment standard, c'est l'opérateur de Schrödinger. Ça faut vraiment garder ce cas en tête. Alors, oui, ça c'est un petit p. Donc, pour l'opérateur de Schrödinger, si mon opérateur grand P c'est l'opérateur de Schrödinger, alors le petit p ça va être la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Alors, ce qu'on est sur RD, avec le laplacien euclidien, c'est vraiment exactement ça. Et quand on est sur une variété, il va y avoir, plus généralement, si on prend une métrique autre que la métrique euclidienne, il va y avoir des termes qui tendent vers zéro, quand H tend vers zéro. Qui ne vont pas nous intéresser à ce stade. Hein, donc, voilà, quand on est dans le cas euclidien, c'est vraiment exact. Et puis, dans le cas sur une variété riemannienne, il peut y avoir des termes d'erreur. Et donc, on se demande ce qui se passe. On se demande ce qui se passe quand on fait évoluer cet opérateur selon une évolution de type Heisenberg. Alors, on va d'abord regarder la dérivée en temps. Alors, je vais l'écrire sur la même ligne. Bon, d'abord, regardez ce qui se passe d'une manière différentielle en temps. Si je dérive ça en temps, j'obtiens I sur H bar fois le commutateur de l'opérateur P. Donc le commutateur de l'opérateur P et de l'opérateur A. Alors peut-être je vais mettre quelques hypothèses qui seront celles dont j'aurai besoin par la suite quand je passerai sur des variétés. Donc je vais supposer que A est un support compact. Mais éventuellement, je pourrais avoir besoin de supposer qu'il appartient à une classe de symboles exotiques. Donc, il va être dans une classe de symboles usuels. Il est dans la classe SJ. Dans cet exemple-là, c'est J égale 2. C'est un J, c'est l'ordre en XI. Donc là, dans cet exemple-là, c'est J égale 2. Et puis, en général, il va y avoir un terme qui ne dépend pas de H, et puis un terme qui dépend de H, mais qui tend vers zéro. Alors, si j'applique, c'est dommage que ça ait été effacé, mais si j'applique ce que j'avais dit tout à l'heure sur... ce qui se passe quand on fait le produit de deux opérateurs pseudo-différentiels. Cet opérateur-là va être du même type. Et si j'applique la formule de tout à l'heure, j'aurais dû développer un petit peu, mais... Alors, si je fais d'abord P fois A, je vais utiliser uniquement le développement de Taylor à l'ordre 1. Dans tout le cours, en fait, j'aurai besoin uniquement de l'ordre 1 du développement de Taylor que j'ai fait tout à l'heure. J'ai P fois A et... alors, si je fais à l'ordre 1, ça fait somme... plus un reste. Ça, c'est pour P fois A, et après, je dois soustraire moins A fois P. Et là, je vais avoir... Bon, c'est... Bon, déjà, il y a le terme principal qui s'annule. Et il va rester des termes... Oui, c'est ça. Il reste des termes d'ordre avec un H devant, mais qui vont se resimplifier avec le H qui est ici. Et j'obtiens que, si je reprends, donc le commutateur qui m'intéresse, donc le terme principal, ça va être, on va voir apparaître le crochet de poisson entre P0 et A, plus un reste on va vouloir dire que le reste est envers zéro, donc ça. Alors le crochet de poisson, c'est le crochet de poisson usuel en géométrie symplectique. Il faut juste pas se tromper de signe. Donc je parle un petit peu plus de l'interprétation dynamique de ce crochet de poisson. Et le reste, alors avec les hypothèses que j'ai mises, que A est un support compact et appartient à une classe de symboles possiblement exotiques, en fait on peut montrer que le reste, il est... Bon, il reste... Une fois qu'on a choisi A à support compact, le symbole va toujours rester à support compact. Ce qui nous intéresse surtout, c'est les puissances de H qui vont sortir. Les puissances de H qui sortent, c'est 1 moins 2 rho. Donc on voit encore une fois que si on veut que, ce reste tende vers 0, donc on veut dire que le commutateur quantique converge vers le crochet de poisson, encore une fois, on est limité à rho strictement plus petit que 1/2. Donc nous, ça c'est vraiment toutes les techniques qu'on utilise, elles sont complètement limitées par ça. Ça, c'est la version commutateur, et le théorème de Degorov, c'est une version où on intègre en temps, et on intègre en temps, et donc on fait le lien entre le flot unitaire engendré par P et le flot hamiltonien engendré par P0. Donc pour ça, je dois écrire les équations de Hamilton. C'est les équations de Hamilton, bien connues en mécanique classique. C'est un système d'équations différentielles d'ordre 1. X point égale dérivée de P0 par rapport à xi. Et xi point moins dp0 par rapport à x. Et on va appeler φt le flot des solutions. C'est-à-dire que si je pars d'une condition initiale x xi, phi t de x xi, c'est l'état du système au temps t. Donc flow, ça veut dire que phi t plus s, c'est phi t rond phi s, pour tout t s dans R. Alors je vais supposer que les solutions sont définies pour tout temps. On va supposer que cette équation, ce système d'équations différentielles, donc ça c'est des conditions sur P0, hein, et dans ce cas-là, j'ai un flot des solutions défini pour tout temps. Et le lien entre le crochet de Poisson et ce flot. Que si je prends une observable classique A et que je la transporte le long du flot et que je dérive et que je prends la dérivée au temps t égale 0 le long du flot, bah en utilisant les équations et la règle de Leibniz, on obtient qu'on retombe sur le crochet de Poisson. Donc de la même manière en fait que le commutateur des opérateurs est obtenu en dérivant la loi d'évolution de Heisenberg au niveau quantique, le crochet de Poisson est obtenu en dérivant le flot hamiltonien. Et à partir de ça, on peut démontrer, je ne vais pas donner les détails, hein, mais c'est vraiment en intégrant ça, on peut démontrer le théorème d'Egorov. Peut-être une petite remarque, puisque je sais que Francis veut parler de quantification de Weyl. Est-ce que j'ai toujours le reste? Oui, voilà. Quand on utilise la quantification de Weyl sur RD, le reste est un petit peu meilleur ici, parce que si on regarde... Ici, vous voyez, j'avais les deux premiers termes qui s'étaient simplifiés. Après, j'avais le crochet de Poisson. Et puis, si on utilise la quantification standard, le terme suivant, il s'annule pas. Si on utilise la quantification de Weyl, elle a une propriété de symétrie qui est meilleure, qui fait que le terme suivant... est de nouveau symétrique et s'annule. Et quand on utilise la quantification de Weyl sur RD, en fait, le reste, si on regarde les puissances de H, sont un peu meilleures. Ce qui fait que le théorème d'Egorov est un petit peu meilleur sur RD. Mais comme mon but dans la suite, c'est de passer à des variétés, de toute façon, on perdra complètement cet avantage de Weyl par rapport à la quantification standard. Alors, en intégrant ça c'est la version dérivée au temps t égale 0. En intégrant cet estimé, on obtient en fait maintenant une comparaison. Dans un cas de figure, on a pris l'opérateur et on l'a évolué par la règle d'évolution quantique. Et dans l'autre cas de figure, on a pris l'observable et on l'a évolué par transport le long des trajectoires classiques. Et ensuite, on regarde l'opérateur associé. Et donc le théorème d'Egorov nous dit que la différence entre les deux, on peut la majorer. Alors on va toujours s'intéresser à des normes de L2 dans L2 hein, dans le cours. Alors en général, assez souvent, on s'intéresse à des intervalles de temps fixes. Et donc, si, quand c'est comme ça, en fait, on a une constante qui est uniforme. Et la majoration, elle est en h puissance 1 moins 2 rho. Donc, voilà, si A c'est un symbole dans la classe de Claude Nirenberg habituelle, on a vraiment H à la puissance 1, et puis si A c'est un symbole exotique, on perd un petit peu quelque chose. Alors quand on va démontrer tout de suite le théorème d'ergodicité quantique, il suffira d'utiliser des intervalles de temps fixés. Mais à partir de la prochaine fois, j'aurai aussi besoin de regarder des temps de plus en plus longs au fur et à mesure que H bar tend vers 0, donc j'ai aussi besoin... En fait, ça reste. J'ai aussi besoin d'énoncer ce qui se passe quand on regarde des intervalles de temps dont la taille tend vers l'infini. Donc si maintenant on veut regarder des intervalles de temps autorisés, donc je autorisés à tendre vers l'infini, on peut majorer la différence entre les deux évolutions. Alors on perd quelque chose qui est linéaire en temps. Et on a le même genre d'estimé tant que ça c'est valable. Valable tant que. En fait, ce qui nous limite en temps, c'est de savoir, dans ce qu'on écrit cet estimé, on a besoin de savoir que la fonction A transportée par le flot est toujours dans une classe de symboles acceptable. Avec le acceptable, c'est toujours rho plus petit que 1,5, puisque sinon on a un reste qui tend vers l'infini. Donc tant que le symbole propagé par le flot reste dans une classe acceptable, on peut écrire ce genre d'estimé. Alors toute la question, c'est de savoir pendant combien de temps cette fonction va rester dans une classe de symboles acceptable. Ça dépend complètement du flot hamiltonien qu'on est en train de regarder, mais typiquement, si on regarde une équation différentielle un peu quelconque, la sensibilité aux conditions initiales, elle est assez souvent exponentielle. Donc le genre d'estimé qu'on a typiquement, c'est que la dérivée, la dérivée de phi t, en général on a ce genre d'estimé hein, qui sont exponentielles en temps. On peut, bon, dans certains cas, en particulier dans des cas complètement intégrables, on peut faire mieux. Mais génériquement, on a des estimés exponentiels sur la dépendance en temps. Et lambda, c'est typiquement ce qui va s'appeler un exposant de Lyapunov. Alors, si on part de ce genre d'estimé, et si, par exemple, A... si A au départ était dans une classe de symboles usuels, si maintenant on se met à la transporter par le flot, Et si on veut que ça soit dans une classe, que ça reste dans une classe de symboles acceptables, on peut, enfin, juste en partant de cette estimée-là, on peut montrer que il y a un temps limite où on sort d'une bonne classe de symboles. C'est ce qui s'appelle souvent le temps des runfest. Et le temps des runfest, ça va être c'est quelque chose qui est logarithmique en par rapport à H. Et si on veut rester dans une classe de symboles exotiques associés au paramètre rho, ici on va avoir rho ici. Donc, et comme typiquement, il faut penser que rho, c'est quelque chose, c'est à peu près un demi, quoi. On essaye de se rapprocher de 1,5, donc ce rho-là, il faut y penser comme étant quelque chose qui est légèrement plus petit que 1,5. Donc ça, c'est une limitation. Ça, c'est vraiment... en fait, c'est le temps jusqu'auquel on peut dire que la mécanique classique est une bonne approximation de la mécanique quantique. Ça interviendra donc pas dans la preuve de Schnirelmann, mais dans la preuve des estimés d'entropie dont je parlerai la prochaine fois, et puis dans les travaux de Semyon Diatlov qui parlera dans 2 semaines.
C'est les constantes qui explosent ou c'est...
Non, là le C c'est... La constante là n'explose pas. Enfin, l'explosion, elle est vraiment là. Non, ça, c'est juste, c'est un nombre qu'on peut calculer. Hein, celle-là, elle est donnée à l'avance. Et après, je ne sais plus. Voilà, c'est des constantes qu'on peut éventuellement s'amuser à optimiser, mais ça joue pas tellement de rôle en général. Ok. Alors maintenant, je vais passer sur une variété et on va se limiter à des variétés compactes. Bon, en général, moi, les variétés, je les dessine comme des surfaces de genre plus grand que 1. C'est parce que j'ai l'habitude des variétés de courbure négative. Hein. Alors, je ne vais pas écrire très en détail la définition de procédé de quantification sur une variété. Ce qui se passe, c'est quand on est sur une variété, on raisonne de toute façon en coordonnées locales. Donc, quand on est sur une variété, localement, on a des cartes qui nous permettent d'identifier des ouverts de la variété à des ouverts de RD. Donc, ce qui s'appelle des coordonnées locales. Et quand est-ce qu'on va... Si j'ai un opérateur qui est défini sur les fonctions C infini de M, quand est-ce qu'on va dire que c'est un opérateur pseudo-différentiel d'ordre M? Alors je le dis à l'oral, je ne sais pas si je vais l'écrire, mais c'est que si on se donne n'importe quel domaine de coordonnées, si on prend une fonction qui est à support compact dans cet ouvert, du coup on peut la ramener à une fonction dans RD, on peut exprimer cette fonction en coordonnées locales, et dans ces coordonnées-là, l'opérateur A, il agit par la formule que j'ai écrite tout à l'heure. Hein, donc on peut l'écrire précisément, mais c'est que vraiment, si, à chaque fois qu'on est dans un domaine de coordonnées locales et qu'on exprime les fonctions dans ces coordonnées, l'opérateur A, il agit par la formule que j'ai donnée tout à l'heure. Et quand même, il y a un point important que je veux écrire, c'est la formule de changement de variable pour les opérateurs pseudo-différentiels dans RD. La formule de changement de coordonnées. C'est cette formule-là qui nous dit que la définition que j'ai dite à l'oral a vraiment un sens. Parce qu'on veut savoir, évidemment, ce qui est important, c'est de savoir si la définition qu'on donne en coordonnées locales est indépendante du choix des coordonnées. Donc, le changement de coordonnées dans RD, ça dit que si j'ai un changement de coordonnées phi, donc un diféo, et je vais peut-être supposer que toutes ces dérivées sont bornées si je veux rester dans des classes de symboles raisonnables. Je suis obligée de dire ça parce que RD n'est pas compact et donc je suis obligée de préciser ça. Du coup, si on a je vais noter, si j'ai une fonction f de RD dans RD, je vais noter t phi, la transformation qui consiste à exprimer f, à composer f par ce difféomorphisme. Donc, c'est ça le changement de coordonnées. Et en fait, quand on a un opérateur pseudo-différentiel et qu'on le change de coordonnées, c'est-à-dire qu'on le conjugue par l'opérateur t phi, ce qu'on peut montrer, c'est que ça reste un opérateur pseudo-différentiel. Alors la fonction a, elle est modifiée. Peut-être je vais l'appeler a phi. Et on peut montrer que si A elle est dans la classe SM, alors A phi aussi. Et puis ça reste vrai pour les symboles exotiques. Il faut faire un petit peu attention. S'il y a deux paramètres, il faut faire un petit peu plus attention. Ça commence déjà à être dangereux. Mais si je zoome de la même manière en position et en impulsion, ça reste vrai. Et ce A phi, il est relativement explicite. Hein, et en particulier, le nouveau symbole, en fait, il est obtenu en composant A par phi en position et par la transposée de la différentielle de phi inverse en impulsion. Ça, c'est vrai à l'ordre principal, et puis il y a un reste qui doit être 1 moins. Ouais, je ne l'ai pas eu. On va parler, je ne sais plus, pour les symboles exotiques, le reste, est-ce qu'on peut. On perd un petit quelque chose en plus. C'est 1 moins 2 euros toujours, hein, c'est toujours le même. Alors ça, c'est vraiment cette formule qui est très importante parce qu'on reconnaît, en fait, on reconnaît les formules de changement de carte du fibrico tangent. Donc ça veut dire que quand on est sur une variété, les symboles A, il faut vraiment les voir comme des fonctions, pas sur le fibré de tangent, mais sur le fibré de cotangent. C'est vraiment à cause de ces formules de changement de coordonnées. C'est les changements de carte pour le fibré de cotangent. Donc le fibré de cotangent, donc ça permet. Enfin, cette propriété-là. D'une part, ça permet de définir ça permet de définir les classes de symboles de Claude Nirenberg comme fonction sur le fibré cotangent, indépendamment du choix de système de coordonnées. Et puis ça permet de définir. On peut définir. C'est pas du tout. C'était déjà pas canoniquement défini sur RD, mais ça l'est pas plus sur une variété. On peut définir un procédé de quantification qui part d'un symbole dans la classe SM et qui lui associe un opérateur dans c'est ce que j'avais énoncé à l'oral, c'est la définition énoncée à l'oral tout à l'heure. Donc on peut définir comme ça un procédé de quantification. J'écris pas les détails parce que c'est un petit peu laborieux, mais la construction, c'est vraiment on utilise des cartes sur la variété, on utilise la formule dans chaque carte, et après on utilise une partition de l'unité pour tout remettre ensemble. Donc on voit que c'est pas du tout canonique. Ça dépend, d'une part, ça dépend des coordonnées locales qu'on a choisies, et par ailleurs, même dans les coordonnées locales, on peut choisir Veil, on peut choisir la quantification standard. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose de canonique, mais ça l'est à l'ordre principal. Donc il y a, on peut définir quelque chose qu'on appelle le symbole principal. Alors peut-être pour le symbole principal, je vais partir vraiment des classes usuelles. Donc si j'ai un opérateur pseudo-différentiel, je peux lui associer un symbole principal qui est défini modulo, c'est défini sa valeur dans un espace quotient, c'est défini modulo H fois SM-1. C'est-à-dire seul le terme vraiment dominant est bien défini, et il y a des termes d'erreur qui dépendent des choix qu'on a faits. Et qui a la propriété que, telle que. C'est bon ? Je le dis ?
C'est juste un SM-1
H. Oui, là. Oui. Ouais. Alors, le sigma, il a la propriété, le symbole principal, que si on prend A et qu'on le. On prend l'observable classique A, on construit l'opérateur associé et on reprend le symbole. On retombe sur A, modulo des termes d'erreur. Par ailleurs, il reste vrai que les propriétés qu'on avait vues dans RV, que si on prend le symbole principal du produit, c'est le produit des symboles principaux. Donc ça, c'est la formule du produit de deux opérateurs. Et puis ça reste vrai que si on fait le commutateur de deux opérateurs et qu'on regarde le symbole principal, on tombe sur le crochet de poisson fois... H bar sur i fois le crochet de poisson. Alors, le Laplacien, on va particulièrement s'intéresser au Laplacien. Donc, ma variété M, hein, elle est munie d'une structure riemannienne, ça veut dire que j'ai un produit scalaire sur chaque espace tangent. Donc sur chaque espace tangent à la variété, je peux calculer des longueurs et des angles. Et j'ai aussi, par dualité, soit par dualité de Fanchel, soit en identifiant le tangent et le cotangent grâce au produit scalaire, j'ai aussi un produit scalaire sur l'espace cotangent. Alors le Laplacien, il est caractérisé au départ, il dépend de la métrique riemannienne. Il est caractérisé par une formule de, si on veut, d'intégration par partie, qui dit que j'ai oublié d'ailleurs quel est son nom, mais l'intégrale de Laplacien phi fois psi, pour la mesure de volume, c'est moins l'intégrale du produit scalaire entre gradient de phi Donc là, la métrique, elle intervient à plusieurs endroits. Elle intervient dans la définition de la mesure de volume et elle intervient aussi dans la définition du produit scalaire. On peut calculer le Laplacien en coordonnées locales, puisqu'on peut exprimer la métrique en coordonnées locales, on peut exprimer le volume en coordonnées locales, et on trouve la formule bien connue que, bon, d'une part, le Laplacien, c'est un opérateur différentiel d'ordre 2, et puis il ressemble à la formule suivante, que le Laplacien f, donc en coordonnées, le Laplacien f, si je regarde que les termes d'ordre 2, ça c'est le terme d'ordre 2 dans le Laplacien, puis après il y a un terme d'ordre 1. Enfin, un opérateur différentiel d'ordre 1. Alors, pour la preuve de Schnirelmann, finalement, avec les questions qu'il y a eu la dernière fois, je vais le démontrer avec les notations semi-classiques, ce qui fait que je vais, en fait, m'intéresser... En fait, je vais m'intéresser en réalité à l'opérateur laplacien semi-classique. Et GIJ, oui, j'ai pas dit, mais GIJ, c'est la matrice. C'est l'expression en coordonnées locales de G étoile. C'est la matrice qui donne le produit scalaire G étoile en coordonnées locales. Donc le terme, bon, là c'est juste l'expression du laplacien semi-classique, et on voit ici le symbole principal, c'est ce qui correspond à ce terme-là. Donc c'est un opérateur d'ordre 2. Et donc le symbole principal, il voit pas les termes d'ordre 1, il voit uniquement ce terme-là. Et le symbole principal du laplacien semi-classique, on voit que c'est c'est somme des g et j de x, psi x, psi j. Autrement dit, c'est la norme de psi au carré pour la métrique riemannienne. Alors je vais l'appeler P0 pour garder les notations de tout à l'heure, quand j'avais fait le théorème des Gourov. Donc ça, c'est vraiment le fait... C'est le calcul un petit peu bien classique, mais c'est ce qui permet de faire le lien entre le laplacien et le flot géodésique. Parce que ici, le flot géodésique, il va intervenir... Le flot géodésique, on va prendre comme définition que c'est le flot hamiltonien engendré par P0. Mais à vrai dire... Oui. Bon, je vais faire uniquement avec des opérateurs de Schrödinger, avec juste le laplacien, mais vous allez voir que la preuve que je vais donner... Elle marcherait exactement de la même manière si je rajoutais un potentiel, en fait. Donc, le flot géodésique. Ici, en fait, le flot géodésique, dans toute cette histoire, il intervient... C'est pas la définition variationnelle des géodésiques qui apparaît. C'est pas la définition comme géodésique, comme courbe qui minimise la longueur. C'est la définition hamiltonienne du flot géodésique. Donc le flot géodésique phi t, c'est un flot qui il est défini sur le fibré tangent, cotangent, pardon. Et c'est le flot hamiltonien engendré par P0. Alors je vais peut-être mettre un demi quelque part. Sinon, sinon la vitesse est un peu changée, quoi. Et à vrai dire, j'ai presque envie de rajouter un potentiel juste pour qu'on voit que ça change vraiment rien. Donc on peut même, si on veut, on va faire la preuve du théorème de Schneer-Allman, on peut rajouter un potentiel, une fonction C infinie. Et donc... maintenant, si on s'intéresse à l'opérateur... Si on s'intéresse maintenant à l'opérateur laplacien plus V, son symbole principal, ça va être l'énergie cinétique qui vient du laplacien plus potentiel. Et si maintenant on regarde cet opérateur-là, ça va être, dans ce cas-là, P0, c'est celui-ci. Et si on regarde cet opérateur-là, le flot qui sort, c'est le flot hamiltonien engendré par ce hamiltonien-là, qui prend maintenant en compte le potentiel. Peut-être, donc je ferai en début de séance prochaine, je ferai la preuve du théorème de Schneer-Allman. Mais alors la dernière fois, je l'avais énoncé uniquement pour le laplacien. Je peux maintenant l'énoncer peut-être pour un opérateur comme ça plus général, pour qu'on voit en particulier pour répondre à une question qui avait été posée sur est-ce que la limite qu'on obtient elle dépend de la couche d'énergie ou non. Donc dans ce cadre-là, il va s'énoncer sous la forme suivante. Alors c'est dans le cas semi-classique, c'était Elfer, Martinez, Robert qui l'avait démontré. L'énoncé que je vais donner, c'est pas tout à fait de leur, mais ça y ressemble fort. Donc on va s'intéresser aux fonctions propres de cet opérateur. Et on va donc tout dépend a priori de h-bar. Hein. Et on va décider qu'on s'intéresse aux valeurs propres dans un certain intervalle E1, E2. Et on va supposer que cet intervalle d'énergie, sur chaque couche d'énergie, on a un flot hamiltonien qui est ergodique pour la mesure microcanonique. Donc je vais appeler M, E, c'est la mesure. Alors en maths, on l'appelle la mesure de Liouville. Sur le niveau d'énergie le niveau d'énergie E, et je pense qu'en physique c'est ce qui s'appelle mesure microcanonique. Et on va supposer, alors peut-être qu'il faut que je lui donne un nom, celle-ci. Comment je vais l'appeler ? Je ne sais pas trop comment l'appeler. C'est le niveau d'énergie E, le niveau d'énergie E classique. Alors, chaque niveau d'énergie est préservé par le flot hamiltonien. Et on suppose que sur chacune de ces couches d'énergie, il agit de manière ergodique. Donc on définira ce que ça veut dire. Donc il agit de manière ergodique pour la mesure microcanonique. Et ça, on va supposer que c'est vrai pour toutes eux dans cet intervalle d'énergie. Prend une base orthonormée, oui, je ne vais pas l'écrire, mais à chaque fois, il faut prendre une base orthonormée de fonctions propres. Et on veut comparer. Donc, les psi h, c'est les fonctions propres correspondant dans cette. Donc là, quand on est avec les notations semi-classiques, quand on regarde un intervalle E1, E2 fixé, quand h tend vers 0, il y a de plus en plus, a priori, de valeurs propres dedans. Le nombre est donné par la loi de Weyl que j'énoncerai la prochaine fois. Hein, donc quand h tend vers 0, le nombre de valeurs propres dans l'intervalle tend vers l'infini, selon la loi de Weyl. Et le théorème d'ergodicité quantique dit que... Alors je devrais peut-être indexer quand même... Oui, je devrais quand même indexer les fonctions propres par leurs valeurs propres. Et le théorème d'ergodicité quantique va dire que va comparer l'élément de matrice diagonale op a psi lambda psi lambda avec La mesure de la moyenne de A pour la mesure microcanonique correspondant à la même énergie. Et malheureusement, il ne va pas nous dire que c'est vrai, que ces deux choses-là sont vraies pour toutes les énergies, mais c'est quelque chose qui est en moyenne. Donc si je fais la somme sur tous les lambdas dans l'intervalle E1, E2, et que je divise par le nombre de termes, ça tend vers 0 quand H tend vers 0. Donc, un peu comme ce qu'on avait dit la dernière fois, j'ai une moyenne de termes positifs, et cette moyenne est petite. Ça ne veut pas forcément dire que tous les termes sont petits, mais ça veut dire que la plupart des termes sont petits. C'est un petit peu, on avait vu ça aussi dans l'exposé, enfin, Anatoly Dimarski avait aussi mentionné ce genre de choses, où il se peut qu'il y ait quelques états individuels, il se peut qu'il y ait un petit nombre d'états où la différence en fait est grande, mais quand même pour la plupart, c'est ce qu'on appelle aussi, ça c'est une sorte de convergence L1, et ça implique la convergence en proba, enfin autrement dit, la plupart des termes sont petits dans la somme. Donc bon, ça va être l'heure d'arrêter, mais ça c'est juste, c'était pour répondre à la question que tu avais posée. En fait, d'habitude, quand on considère uniquement le Laplacien, c'est un Hamiltonien qui est homogène, et donc en fait toutes les couches d'énergie sont les mêmes, ce qui fait que dans ce cas-là, on décide souvent de travailler avec des fonctions A qui sont aussi les mêmes sur toutes les couches d'énergie, et on ne perd aucune information en faisant ça. Mais simplement, quand on l'écrit pour le Laplacien, après, en général, la limite a l'air de ne pas dépendre de la couche d'énergie. Mais si on se met à écrire le théorème pour des Hamiltoniens plus généraux, la limite ici, c'est la mesure microcanonique, mais pour l'énergie qui est la même que la valeur propre. Voilà, donc ça, c'est... Maintenant, j'ai tous les outils quasiment pour faire la preuve. Et ça, voilà, comme je disais, cette version-là de l'énoncé, c'est quasiment la version de Elfer, Martinez, Robert, sauf que eux, au lieu de prendre une fenêtre d'énergie fixée E1, E2, ils prenaient une fenêtre qui se concentre sur une énergie précise, de manière à n'avoir à supposer l'ergodicité que sur une couche d'énergie. Parce que comme la propriété d'ergodicité, c'est pas forcément stable par petite perturbation. Donc en général, supposer qu'on a l'ergodicité dans tout un ouvert d'énergie, c'est pas complètement évident en fait. On sait construire des systèmes hamiltoniens qui sont ergodiques sur une couche d'énergie, mais c'est pas complètement clair que l'ergodicité va rester sur les couches d'énergie voisines. Donc la forme énoncée par Elfer, Martinez, Robert, en fait, suppose uniquement l'ergodicité sur une couche d'énergie, et on peut faire la même chose, mais dans ce cas-là, il faut prendre un intervalle qui décroît vers la couche d'énergie. Voilà, bah, on va faire un quart d'heure de pause.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.